Le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Israël a décidé de frapper l'Iran. Son armée a visé cette nuit des sites nucléaires et désormais le spectre d'une nouvelle guerre est en vue. Washington était prévenu mais désapprouve. Nous y reviendrons largement au début de ce journal.
Au Canada, d'immenses feux de forêt menacent désormais la grande ville de Vancouver. Sur la côte ouest.
Et puis en France, retour sur une expérimentation qui souhaite être pérennisée, le programme Territoire zéro chômeur de longue durée. Reportage à Villeurbanne. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
On parle d'archéologie préventive. Peut-on se passer du passé ?
Réponse à partir de 7h15. L'escalade tant redoutée au Proche-Orient est donc en cours cette nuit, malgré les appels de Washington à calmer le jeu. Israël a décidé de mener plusieurs frappes contre l'Iran, des frappes visant un site d'enrichissement d'uranium qui aurait tué, selon Téhéran, Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, mais aussi plusieurs autres personnes. Depuis quelques jours déjà, à mesure que les négociations entre Téhéran et les États-Unis sur le nucléaire semblait s'enfoncer dans une impasse. Israël avait précisé ses menaces. Ce matin, les médias d'État iraniens rapportent de fortes explosions dans la capitale, avec des morts civiles dans des immeubles résidentiels. L'Iran a fermé son espace aérien, son voisin irakien aussi. Thibault Lefebvre, vous êtes à Jérusalem pour France Culture. Benjamin Netanyahou a déclaré cette nuit que ces frappes dureraient aussi longtemps que nécessaire.
Ah, c'est clairement le début d'une guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Benjamin Netanyahou a parlé dans un discours martial à 3h du matin de frappes préventives, ce qui laisse penser que le conflit ne fait que commencer et que l'État hébreu a décidé, après des années d'hésitation, d'attaquer officiellement Téhéran pour définitivement annihiler la menace iranienne. Deuxième enseignement, ces frappes ont ciblé les installations nucléaires iraniennes et notamment l'usine de Natanz, mais pas seulement. Les deux plus hauts commandants iraniens, Mohamed Bagheri, le chef d'état-major, et Hossein Salami, le numéro 1 des gardes de la Révolution, l'organisation paramilitaire directement sous les ordres du guide suprême, sont morts. Et puis l'arsenal de 2000 missiles balistiques, selon le renseignement américain, a été touché. Ce qui pose donc ce matin la question des capacités de réponse iranienne. Ce type de missiles à longue portée peuvent toucher le territoire israélien en 12 minutes. L'Iran promet une réponse forte, une punition sévère, selon le guide suprême Ali Khamenei. L'État hébreu se prépare donc au pire. Le pays est depuis le milieu de la nuit en état d'urgence.
Thibault Lefebvre, merci. Le porte-parole de l'ONU lançait cette nuit un appel à la retenue maximale. Et puis aux États-Unis, Donald Trump vient de s'exprimer. Il dit espérer toujours des négociations avec l'Iran après ses frappes. Il affirme que Téhéran ne peut pas avoir de bombes nucléaires. Peu de temps avant, son secrétaire d'État Marco Rubio affirmait dans un communiqué que Washington avait bien été prévenu par l'État hébreu de ses frappes, mais affirme que la Maison-Blanche n'est pas impliqué. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Washington. De fait, Sébastien, cette escalade militaire est un désaveu pour Donald Trump.
Oui, lui qui promet de régler les conflits en un claquement de doigts ou presque depuis qu'il est en campagne. Il donnait à la fois l'impression d'être conscient que de telles frappes pouvaient se produire, il l'a encore dit hier, il parlait du risque d'un conflit massif, et en même temps il assurait qu'il ne voulait pas que Benjamin Netanyahou intervienne, que ça risquait de tout faire capoter. Il faisait référence aux discussions sur le nucléaire iranien, qui à l'entendre se passait très bien, on était proche d'un bon accord, je cite encore, non seulement Netanyahou ne l'a pas écouté, mais en plus le sixième round de négociations avec Téhéran, prévu dimanche en Oman, devient très incertain. On verra aussi quel sera le rôle des États-Unis dans la défense d'Israël contre une riposte iranienne, là où Biden n'a pas hésité en octobre dernier quand l'Iran a lancé ses drones sur son allié. Pour l'instant, pour Trump, qui promettait aussi la paix en Ukraine en 24 heures, voilà clairement un revers de plus.
Merci Sébastien Paour. On reviendra évidemment largement sur cette actualité au Proche-Orient dans nos prochaines éditions. 265 morts au moins, c'est le bilan de la catastrophe aérienne qui s'est produite hier en Inde. Un Boeing 787 Dreamliner d'Air India s'est écrasé sur des immeubles après son décollage d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde. Il devait rallier Londres avec 242 personnes à bord. Un passager s'en est miraculeusement sorti. Quant aux personnes à terre percutées par l'avion, le bilan des victimes n'est pas définitif. L'agence américaine de sécurité des transports va envoyer une équipe d'enquêteurs sur place. Boeing se dit prête à aider également, car cet accident braque à nouveau les projecteurs sur le constructeur américain. Jusqu'à présent, ce type d'appareil n'avait pas été impliqué dans un accident mortel, mais il était surveillé depuis des années. Les feux de forêt au Canada, ils détruisent depuis maintenant plusieurs années des millions d'hectares de végétation, pratiquement tous les étés, et commencent de plus en plus tôt dans l'année. Alors que le pays panse encore les plaies des incendies particulièrement dévastateurs de 2023, voilà que l'ouest du Canada est à nouveau la proie de feux précoces et très violents. 3,5 millions d'hectares sont partis en fumée depuis quelques jours, tout près de la grande ville de Vancouver. Les précisions d'Oriane Gendreau.
Des flammes visibles depuis le centre-ville, les murs des maisons arrosés en permanence pour éviter que le feu ne prenne. Ces images partagées par les habitants de Squamish, à 65 km de Vancouver, montrent une population qui s'organise pour protéger les maisons et se préparer à une éventuelle évacuation. Un feu hors de contrôle s'est déclaré il y a quelques jours dans le district. Il a détruit plus de 14 hectares et ne cesse de grossir, menaçant les 25 000 habitants du secteur. Les autorités de la région ont déclaré l'état d'urgence et s'inquiètent de voir les incendies se rapprochaient de Vancouver, agglomération de plus de 3 millions d'habitants. En tout, 225 feux sont actifs dans le centre et l'ouest du Canada et la moitié sont jugés hors de contrôle. Plus de 30 000 personnes ont dû être évacuées depuis début mai. Les feux de forêt ne sont pas rares dans le pays, mais cela inquiète les chercheurs parce qu'ils arrivent très tôt dans l'année. Selon le ministère de l'Environnement canadien, ils avaient détruit fin mai 3 fois plus de territoire que la moyenne établie ces 10 dernières années. Et le Canada doit se préparer à ce que cette exception devienne la norme, les incendies étant plus intenses et durant plus longtemps sous l'effet de la sécheresse et des températures qui vont encore augmenter ces 3 prochains mois.
Oriane Gendreau. En Irlande du Nord, après 3 nuits d'émeutes, les habitants d'un quartier à forte population immigrée de Ballymena sont terrifiés au point d'envisager de partir. Ils sont la cible de violences racistes après que 2 adolescents roumains ont été accusés d'avoir voulu violer une jeune fille dans cette ville située à 45 km de Belfast. La plupart des habitants d'un quartier où vivent de nombreux immigrés sont soit cloîtrés, soit partis. Ces attaques racistes visent en particulier les immigrés d'Europe de l'Est. On y reviendra dans le journal de 8h.
7h07 sur France Culture, la suite de votre journal. Anne-Laure Chouin avec l'actualité en France. 1,5 million d'élèves s'apprêtent à passer le bac français.
Oui, les lycéens de première des bacs général et technologique auront 4 heures pour rédiger une dissertation ou un commentaire de texte. Parmi les 12 œuvres qu'ils avaient à étudier, on trouve les cahiers de Douai, d'Arthur Rimbaud, Gargantua de Rabelais, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, ou encore Sido de Colette. L'épreuve fait partie des épreuves dites terminale du bac. Elle sera suivie de l'oral, donc de français. L'an prochain, pour la première fois, les lycéens de première générale et technologique passeront une autre épreuve anticipée en mathématiques. Focus à présent sur une expérimentation française qui dure depuis 2016 et qui vise à réinsérer dans l'emploi les personnes qui en sont le plus éloignées pour des emplois qui ont également à cœur l'intérêt général. Les territoires zéro chômeur de longue durée sont désormais au nombre de 83 dans une cinquantaine de départements. Ils ont permis à 8000 personnes de retrouver un emploi durable et ils voudraient désormais être pérennisés. Une proposition de loi en ce sens est examinée à l'Assemblée pour pérenniser donc à la fois le dispositif et ses budgets. Le principe, c'est que ce budget soit à peu près égal à la somme que l'État devrait dépenser en allocations et minima sociaux si ces personnes étaient au chômage. Reportage donc sur un de ces territoires pionniers à Villeurbanne, près de Lyon, dans l'entreprise Enjouée où s'est rendue Camille Magnard.
Il y a juste société, pas autre, de construction, mais garde-loc.
Autour d'elle, des étagères pleines de jouets en attente d'un nettoyage ou d'une réparation. Mounia a 47 ans, dont 6 passés en France. Et elle a signé son premier CDI il y a 6 mois, ici, dans l'EBE, entreprise à but d'emploi Enjouée.
Le travail Enjouée m'a fait sortir de la zone confort, parce que si on est de rester à la maison, de faire la même chose chaque jour, c'est pour cela que je préfère sortir et venir ici de travailler avec mes collègues.
Des collègues presque toutes femmes, parce qu'ici, on fait signer un CDI d'abord aux chômeurs de longue durée, et ensuite, on s'adapte à leurs compétences et à leurs contraintes, notamment la garde des enfants, avec des temps de travail choisis. Mais attention, insiste le directeur Gilles Malandrin, ici, on ne fait pas pour autant de l'occupationnel.
C'est pas un travail juste pour se faire plaisir ou juste pour reprendre une place, c'est vraiment un travail, comme n'importe quelle entreprise, il faut chercher des clients, que ce soit les crèches, les particuliers pour Noël. En fait, mes salariés sont très branchés clients. Ça serait effectivement une marque un peu de mépris des gens de dire bah, on fait quelque chose et puis ça sert à rien.
La ville de Villeurbanne a fait partie des pionniers des territoires zéro chômeur. Près de 10 ans plus tard, dans ce quartier Saint-Jean de 4000 habitants, dont 10% concernés par le dispositif, les promesses ont été tenues, assure la responsable emploi et insertion de la ville, Hayat Bohaira.
On est à 250 en fait personnes qui étaient privées d'emploi en 2017 et qui ont retrouvé un emploi durable sur les 400 au départ, et c'est l'objectif qu'on s'était donné. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a encore 80 personnes sur la liste d'attente. Donc tout le travail n'est pas fini, mais l'objectif qu'on s'était donné, on l'a atteint.
Mounia, elle, profite de son travail ici pour perfectionner son français et se remettre en selle. Avec son bac plus 4 marocain de droit privé, elle réfléchit déjà à la suite de son aventure professionnelle.
Camille Magnard. La ligne Paris-Marseille en TGV est désormais officiellement ouverte à la concurrence. À partir de ce dimanche 15 juin, vous aurez le choix entre la SNCF et Trenitalia pour voyager entre les deux villes. Ce train de la compagnie italienne desservira également Lyon-Saint-Exupéry, Avignon, TGV et Aix-en-Provence TGV. Ça n'est pas la première fois que le groupe ferroviaire italien vient concurrencer la SNCF. Depuis décembre 2021, il opère aussi des liaisons Paris-Lyon. Mais Jeanne Stémar, cette ligne était depuis quelque temps déjà dans le viseur de Trenitalia.
La ligne Paris-Marseille est l'une des plus fréquentées et des plus rentables de France. Pour le moment, Trenitalia prévoit 4 trajets par jour et l'entreprise promet des tarifs 20 à 25% moins chers que ceux proposés par la SNCF. Patricia Pérennes est économiste spécialiste du transport ferroviaire. Sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Marseille, des passagers, il y en a.
Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice d'essayer de réserver un train pour cet été, un peu partout en France, mais sur ces lignes en particulier. Les trains de SNCF sont pleins, vous voulez prendre un train, vous ne pouvez pas en fait. Alors si vous êtes tout seul, vous aurez la chance d'avoir une place, mais si vous êtes une famille, 4 billets, c'est même plus la peine. À part les samedis des vacances, il n'y aura plus de place. Forcément, quand c'est plein chez TGV, ben, vous avez plus de chances en tant que client de se tourner vers une autre entreprise ferroviaire. C'est-à-dire qu'ils vont ne voler de voyageurs à personne, mais ils vont pouvoir se constituer leur propre clientèle.
Mais l'arrivée de cette concurrence, c'est de l'argent en moins pour la SNCF. Contrairement à Trenitalia, le groupe doit aussi faire rouler ses TGV sur des lignes non rentables, comme celle de Bar-le-Duc d'Épinal, par exemple.
Ce qu'ils disent, c'est que leur un tiers de ligne rentable paierait les deux tiers de lignes non rentables. Le problème, c'est pas que Trenitalia vienne sur Paris-Lyon-Marseille. C'est que Trenitalia vienne sur Paris-Lyon-Marseille, mais pas sur Paris-Épinal. Le SNCF a demandé au ministère des Transports de faire un point sur si on arrête de gagner de l'argent sur ces lignes rentables, il n'y a pas de souci, on peut se battre en tant que SNCF et être aligné sur les tarifs et le service de Trenitalia. Par contre, on n'aura plus cette petite cagnotte qu'on dégageait là-dessus pour financer les autres lignes. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord sur comment reconstituer la cagnotte, ou alors nous, on arrêtera de faire ces lignes pas rentables.
De son côté, le ministère des Transports se dit prêt à soutenir la SNCF et envisagerait de demander à la Commission européenne une obligation pour les nouveaux acteurs privés d'aller aussi sur les lignes les moins rentables.
Jeanne Stémar, et puis on l'apprend à l'instant, un pipeline de gaz vient d'exploser à Saint-Martin-de-Crau, dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs habitations ont été évacuées. On passe au temps de ce vendredi. Il reste très chaud sur la partie sud du pays. 17 départements du nord-ouest et du sud-ouest sont par ailleurs placés en vigilance orange pour orage cet après-midi, entre la Normandie et le Pas-de-Calais et de la Dordogne aux Hautes-Pyrénées. Météo France prévoit de fortes chutes de grêle et une activité électrique intense dans le sud-ouest en particulier. Ailleurs, grand soleil toute la journée, comptez de 24 degrés à Rennes jusqu'à 35 degrés à Grenoble. Je vous retrouve à 7h30 pour le journal de l'Écho. On parlera de surpêche. Mais pour l'heure, c'est la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. Dans quelques instants, la question du jour de Marguerite Caton, archéologie préventive. Peut-on se passer du passé ?
Thérèse, notre nouvelle stagiaire.
Fatiguez pas, elle est pétée comme un coin.
Je le voyais pas du tout comme ça.
C'était la fête de Radio France hier soir. Le stagiaire s'est bien amusé, mais qu'il se rassure.
Oh, bon week-end. Je te souhaite un bon week-end. Moi qui voulais tout.
Les matins de France Culture.
Guillaume Erner.
Ne rougissez pas, Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De l'archéologie ce matin.
Les archéologues forment généralement une profession discrète qu'on voit peu manifester. Ils étaient pourtant une nouvelle fois rassemblés hier dans les rues de Paris pour dénoncer les menaces qui pèsent sur leur mission. Entre le projet de loi sur la simplification économique et les coupes budgétaires, c'est tout un secteur qu'on détricote, un service public qu'on fait disparaître à bas bruit. Explication avec Jean-Paul Demoule. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin depuis Arles où vont s'ouvrir dans quelques heures les Journées européennes de l'archéologie. Vous êtes archéologue, préhistorien. En 2001, vous fûtes le premier président de l'INRAP jusqu'en 2008. Peut-être pouvez-vous nous expliquer pour commencer la différence entre l'archéologie préventive et l'archéologie programmée et la manière dont la première a progressivement supplanté la seconde.
Oui, tout à fait. Pendant longtemps, en France, on a tout laissé détruire les sites archéologiques qui étaient touchés par les aménagements. Hein. Je rappelle que chaque année, on bétonne à peu près 50 000 hectares pour des constructions, autoroutes, etc. C'est-à-dire 500 km², un département tous les 8 ans. Et que depuis 2001, il y a effectivement une législation qui fait que quand les services de la culture est qu'il peut y avoir un site archéologique à l'endroit d'un aménagement prévu. Ils prescrivent des sondages préalables, ce qu'on appelle des diagnostics, qui sont effectués soit par l'INRAP, soit par les services archéologiques de collectivité. Et c'est à peu près ça arrive dans 20% à peu près des projets d'aménagement. Et s'il y a une fouille, s'il y a de quoi effectivement un site important, ils prescrivent une fouille proprement dite, et ça arrive là dans 20% à peu près de ces 20%, c'est-à-dire dans 3-4% à peu près par an, et ça coûte 2-3% à peu près à l'aménageur qui doit financer ces fouilles, sauf si c'est un petit aménageur et un particulier. Jusque-là, tout allait bien en 2001, et puis de nouveau, depuis 2-3 ans, il y a effectivement des attaques contre ce dispositif. Donc ça, c'est les fouilles préventives. Ça représente à peu près 90% des fouilles faites en France. Le reste, c'est effectivement des fouilles sur des sites que rien ne menace. Il y a d'ailleurs des pays comme la Hollande où on ne fait pas de fouilles si le site n'est pas menacé. Voilà.
Donc 90% des fouilles faites en France, on comprend que c'est vraiment là que se joue l'archéologie aujourd'hui. Vous avez commencé à nous décrire les différentes étapes de ces chantiers. On imagine que depuis le temps que la France est occupée humainement, les sites potentiels sont légion. Pourquoi seuls certains projets d'aménagement font-ils l'objet d'un diagnostic archéologique et comment, très concrètement, ces sondages sont-ils menés, Jean-Paul Demoule ?
Oui, effectivement, la France est occupée depuis, il y a une présence humaine depuis plus d'un million d'années, donc effectivement, on estime qu'il y a à peu près 5 millions de sites archéologiques, dont on n'a recensé que quelques centaines de milliers. Donc, la présomption de sites archéologiques, c'est soit le projet repose sur une grande surface, par exemple, un projet d'autoroute, eh bien là, vous êtes sûr qu'il va y avoir quelque chose sur une autoroute, on trouve en moyenne un site sur un projet d'autoroute, on trouve en moyenne un site important tous les kilomètres, soit dans une zone déjà sensible, évidemment dans une ville qui a été anciennement romaine, c'est le cas de la moitié de nos préfectures par exemple, soit dans des localisations favorables, par exemple on est sûr que le long des rivières où s'installent en général toutes les carrières de sable et gravier destinées à notre béton, mais ben là, il y a une grande quantité de sites. Alors, une fois que, effectivement, les services du ministère de la Culture ont prescrit ces diagnostics, eh bien, avec une pelle mécanique et avec précaution, on va faire des sondages, on va creuser sur à peu près 10% de la surface. Dès qu'on trouve quelque chose, on s'arrête et c'est comme ça que vont se faire ces diagnostics. Il y a d'autres méthodes, mais qui sont moins efficaces efficaces comme les prospections électromagnétiques qui vont repérer des anomalies dans le sol. Ça marche si ces anomalies sont suffisamment importantes.
Voilà. Vous nous avez dit qu'en fin de compte, 3 à 4% des sites repérés allaient être fouillés, et en même temps que lorsqu'on fait un projet d'autoroute, on a un site tous les kilomètres. Alors, comment s'opère la sélection ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir des vestiges vus, des vestiges importants ? Est-ce que c'est une sélection scientifique ou une sélection financière ?
Non, c'est normalement une question scientifique. Quand ces sondages sont faits, vous avez 4 possibilités. Ou bien il n'y a rien du tout et tout le monde est content. Les archéologues ne sont pas demandeurs de fouilles. Ils préfèrent en conserver le plus longtemps possible pour les générations futures. Soit c'est tellement important qu'on ne peut même pas y toucher. Ça arrive une ou deux fois par an. Et en général, c'est à l'intérieur des villes. Quand vous tombez sur un monument. Troisièmement, il y a des choses, mais elles ne sont pas suffisamment importantes en nombre, et donc on va juste les documenter et ça s'arrête là. Ou enfin, dernière solution, les 20%, où c'est quelque chose qui va nécessiter une fouille. Donc, pour redonner des chiffres, il y a entre 2 ou 3000 aménagements chaque année sur lesquels sont faits des sondages, et il y a à peu près entre 400 et 500 fouilles archéologiques proprement dites qui sont faites en France. Alors, vous avez raison sur les questions financières, c'est que le nombre de sondages, il est limité par les crédits. Et ces crédits viennent d'une taxe, la taxe d'archéologie préventive, qui est prélevée par les services du ministère des Finances, mais qui les redonne au compte-goutte au ministère de la Culture. Pour être précis, il faudrait à peu près 120 millions d'euros chaque année pour faire ces 3000 opérations de sondage, et Bercy n'en reverse à peu près que 70, et c'est l'un des problèmes, puisque effectivement, comme vous l'avez compris, tout découle des sondages. Si on ne peut pas en faire suffisamment, et bien évidemment, il y aura encore moins de fouilles.
Donc on arrive à la question des menaces, la menace budgétaire, on va en dire un mot, mais d'abord celle en cours qui est liée à un amendement déposé par le groupe Horizon à la loi de simplification de la vie économique qui est en cours d'examen là encore aujourd'hui demain à l'Assemblée nationale et qui propose d'exempter les projets dits d'intérêt national majeur de ces procédures. Alors qui décidera de ces projets d'intérêt national majeur ? Est-ce que ça fait, à votre avis Jean-Paul Demoune, peser un risque réellement important sur le patrimoine archéologique national ?
Ben, évidemment, c'est la porte ouverte à tout, parce que c'est effectivement les services de l'État qui vont décider si c'est intéressant ou pas, ou symétriquement quelque chose qui ne serait pas intéressant du tout. On voit pas pourquoi on ferait d'aménagement. Donc c'est pas la première fois qu'il y a eu une attaque. Déjà en 2014, on avait promis un choc de simplification, et là c'est de nouveau la simplification qui est censée aider l'économie. Or, ce qui est étonnant, c'est que ça émane plutôt de milieux politiques, en plus de milieux politiques qui, paradoxalement, disent à tout bout de champ qu'on ne s'intéresse pas assez à notre glorieux passé, à notre histoire qui n'est pas enseignée, etc. Alors qu'en général, avec les gros aménageurs, les choses se passent assez bien parce qu'ils ont un planning, ils incluent l'archéologie dedans, comme ils ont des tas d'autres contraintes, et de toute façon le coût des fouilles est répercuté. Si 2% pour la construction d'une autoroute, et bien le ticket d'autoroute va coûter 2% de plus, même chose pour des logements, etc.
Donc des attaques politiques, mais aussi, vous l'avez dit, des questions budgétaires. Selon l'intersyndicale de l'INRAP, on est passé de 82 000 jours hommes de diagnostic en 2023 à 55 000 pour 2025. Donc là, la capacité d'action de l'INRAP ralentit. Et les conflits avec les aménageurs, vous nous décriviez des relations plutôt apaisées, là les conflits vont se multiplier, Jean-Paul Demoulé. Une fois que tout, on fait traîner un chantier, dans ce cas, plus personne n'aura envie de faire d'archéologie préventive.
Évidemment, on peut tout à fait comprendre les aménageurs avec lesquels, je le répète, les relations entre archéologues et aménageurs, la plupart du temps, sont très bonnes, mais moins il y a d'argent, comme vous venez de le dire, pour les diagnostics, eh bien, à ce moment-là, on est obligé d'échelonner de plus en plus et de retarder. Ce qui coûte à un aménageur, c'est beaucoup plus le temps que directement l'argent, quand il peut justement répercuter le coût. Donc, plus on va traîner, plus les aménageurs, effectivement, vont être mécontents. Donc, les préfets, puisqu'en définitive, c'est le préfet qui après avis des services archéologiques de l'État, donne l'autorisation, les préfets vont annuler purement et simplement la prescription de diagnostic et les sites seront détruits. Théoriquement, vous n'avez pas le droit de détruire un site archéologique, mais s'il n'y a personne pour le constater, la destruction est irrémédiable.
Merci beaucoup, Jean-Paul Demoule. 7h24, Guillaume, la revue de presse.
Face à l'impasse budgétaire, la tentation de l'impôt, ça c'est la une du Figaro ce matin. Marguerite, toujours à la une du Figaro, une autre question. Gaza, que reste-t-il du Hamas après 8 mois de guerre? L'Opinion, elle, évoque le Rassemblement National en quête de respectabilité économique. Le Rassemblement National lance une réflexion interne sur une règle d'or budgétaire et la retraite par capitalisation. Aux Échos, le crash d'un 787 d'Air India fragilise un peu plus Boeing. Le Parisien nous entraîne dans un tout autre monde. Les nuits infernales des riverains de Trézon. Et puis, pardonnez-moi. Et puis, cette autre bataille diplomatique, celle-ci, Palestine, Macron en quête de reconnaissance.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le comme personne, comme tous les vendredis, depuis un an et demi, la bande de Gaza est fermée aux journalistes internationaux et seuls les journalistes gazaouis peuvent témoigner de ce qui s'y passe. C'est le cas de Mohamed Zahanoun, qui a couvert la guerre pendant 6 mois avant de pouvoir rejoindre l'Europe. Un portrait signé Mathilde Cariou et Myriam Eldaya.
Je m'appelle Mohamed Zahanoun, je suis photojournaliste de Gaza. Je fais ce métier depuis 20 ans, j'ai couvert toutes les guerres qui ont eu lieu à Gaza, depuis les années 2000 jusqu'à ce génocide que nous sommes en train de vivre.
Sur la joue de Mohamed Zahanoun, une cicatrice, souvenir de son tout premier conflit en tant que journaliste indépendant. Un drone israélien a fait exploser la caméra qu'il tenait à hauteur de son visage. C'était en 2006, il avait tout juste 18 ans. Depuis, il a couvert les guerres en Syrie, en Jordanie, puis de nouveau à Gaza. Jamais, dit-il, les journalistes n'ont été autant ciblés que depuis octobre 2023.
Israël s'en fout des humanitaires, des médecins, des journalistes. Il les tue et le monde les regarde.
Au moins 44 journalistes gazaouis ont été tués sur le terrain, micro à la main, gilet pare-balles sur le dos. 150 autres ont péri dans le bombardement de leur tente ou de leur maison. C'est un miracle d'être encore vivant, estime Mohamed Zahanoun.
Ma maison a été ciblée, elle a été détruite. J'ai tout juste réussi à sortir mes enfants de sous les décombres, mais mon fils a été blessé dans le bombardement. Grâce à Dieu, nous avons survécu. C'est miraculeux. Mais comme tout le monde sait qu'Israël cible les journalistes, plus personne ne veut nous accueillir, c'est trop compliqué. Les gens ont peur que leur maison soit bombardée si Israël se rend compte qu'on est là. Donc on ne peut pas rentrer chez les gens, on ne peut pas rendre visite à notre famille. On est obligé de dormir dans la rue, dans les tentes, dans la cour des hôpitaux ou dans nos voitures. Mais on comprend. On ne peut pas leur en vouloir.
D'autant qu'il y a les bombes et il y a les menaces, raconte Mohamed. Les enfants de son collègue, Hassan, ont été tués par Israël et les siens visés à plusieurs reprises.
On a reçu des appels d'Israéliens qui nous disaient « On sait que tes enfants sont dans tel immeuble, à tel étage, on va les bombarder. » Ou pire, moi, pour protéger mes enfants, je prends leur téléphone et je les éteins. Israël a rallumé le portable de ma fille à distance et l'a appelé pour la menacer.
Ce coup de téléphone, c'est la menace de trop pour Mohamed. Après 6 mois de conflit, il parvient à quitter Gaza avec sa femme et ses enfants. Il paye 20 000 $ pour traverser la frontière égyptienne et rejoindre les Pays-Bas où il a depuis demandé l'asile. Il laisse derrière lui son appareil photo pour que son petit frère, Youssef, continue de documenter les massacres.
Je lui ai laissé toutes mes caméras, tout mon matériel. En réalité, c'est toute ma vie que j'ai laissée à Gaza. J'ai seulement emporté les archives de mes 20 ans de travail pour les diffuser ici en Europe. Je suis loin, mais J'essaye d'aider mes collègues en leur expliquant comment se cacher pour prendre une photo, comment éviter de se faire repérer et bombarder. Le problème, c'est que les conditions sont de pire en pire. Il n'y a plus d'électricité pour recharger les batteries des appareils photo. Certaines ont été tellement usées pendant 2 ans qu'elles sont tombées en panne et on ne peut plus rien faire entrer à Gaza.
Les images de Youssef sont publiées sur le compte Instagram de Mohamed. Une vidéo récente le montre blessé dans un bombardement. Lui aussi aurait voulu partir, mais c'était trop tard. Les Palestiniens ne peuvent plus sortir et les journalistes internationaux ne peuvent pas rentrer.
Il y a 2 raisons à cette interdiction. La première, c'est que les journalistes internationaux vont travailler avec les journalistes de Gaza, ils vont se mélanger et Israël ne pourra plus distinguer et cibler uniquement les Palestiniens. La seconde, c'est que si des étrangers entrent, ils vont documenter le génocide. Et ça, Israël ne veut pas.
Une tribune de Reporters sans frontières et 130 médias internationaux demandent l'ouverture de la bande de Gaza. Elle est pour l'heure restée lettre morte.
Le portrait était signé Mathilde Cariou et Myriam Eldaya. Dans quelques instants, c'était il y a 100 ans, jour pour jour, cette journée que Mrs. Dalloway a passé dans Londres et qui a donné naissance à l'un des plus grands romans de tous les temps, le roman de Virginia Woolf, évidemment Mrs. Dalloway. On en parle dans quelques instants. Et voici le journal de l'Écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le décryptage Écho est consacré ce matin à la surpêche, à l'occasion bien sûr des débats qui se sont tenus toute cette semaine à Nice, au sommet des Nations Unies pour l'océan, où la question de la pêche au chalut notamment a été vivement discutée. Faut-il ou non l'interdire dans les aires marines protégées ? On rappelle que la pêche au chalut est la technique de pêche industrielle la plus répandue. Elle consiste à traîner des filets géants qui raclent le fond des océans. Elle est une catastrophe, en particulier pour la biodiversité marine. Bonjour Catherine Pétillon.
Bonjour Anne-Laure.
Alors vous êtes toute cette semaine à Nice pour couvrir ce sommet des océans, où l'on a parlé du chalut donc, mais aussi de tous les moyens de lutter contre la surpêche et la pêche illégale.
Oui, on parle de surpêche quand le nombre de poissons pêchés est tellement élevé qu'il n'y a plus assez d'adultes pour se reproduire et maintenir un niveau de population suffisant. À Nice, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, a présenté son bilan annuel sur la ressource. Au niveau mondial, plus d'un tiers des stocks de poissons restent surexploités et la surpêche est même en progression chaque année. En France, ce sont désormais 58% des volumes de poissons débarqués qui proviennent désormais de populations exploitées durablement, a mesuré Ifremer, mais ce chiffre n'évolue que très peu depuis 2017. La gestion des ressources est un enjeu mondial. Clara Ulrich est chercheuse en halieutique à Ifremer.
Nous, dans la science de la pêche, on a cette expression qui dit un poisson bouge beaucoup pendant qu'il est vivant, mais il bouge encore plus quand il est mort. Parce qu'on va avoir ces flux internationalisés d'un poisson qui va être pêché quelque part, qui va être traité ailleurs et qui va être revendu dans une troisième partie du monde. Il y a quand même un découplage assez important, notamment en France, en Europe. Pour résumer, on peut dire qu'on ne mange pas vraiment ce qu'on pêche et on ne pêche pas vraiment ce qu'on mange. Ce que mangent essentiellement les Français, ça va être le saumon, la crevette, qui sont issus de l'aquaculture, qui sont des carnivores et qui ne sont pas non plus issus d'Europe.
Alors cela ajoute une pression de pêche sur des petits poissons, et c'est particulièrement le cas en Afrique, où la majorité des petits poissons pélagiques sont exploités pour ensuite être transformés en nourriture pour poissons ailleurs dans le monde, au lieu de nourrir les populations locales.
Et puis on le disait Catherine, le chalut de fond a été particulièrement discuté.
Oui, c'est devenu une controverse très vive parce qu'elle incarne à elle seule les enjeux du moment. Mais une population de poissons bien préservée est nécessaire à tous. Alors l'attention n'est pas tant entre environnement et économie qu'entre gestion à court et long terme. Et pour Clara Ulrich, la protection de l'océan réclame une meilleure articulation des politiques publiques.
La politique commune de la pêche, qui est cette obligation européenne pour les États membres, c'est essentiellement une politique qui s'est construite sans faire référence à où on pêche. Et même assez peu à comment on pêche. C'est une politique qui s'est basée sur combien on pêche, le nombre total de poissons morts, une fois qu'on cumule tous les pêcheurs avec tous les engins de tous les pays dans toutes les zones. Alors qu'à l'inverse, les politiques aujourd'hui de protection de la biodiversité, et en particulier la directive pour la protection des habitats, c'est une politique qui est par essence spatialisée. On définit des zones qui sont sensibles et qui donc demandent de la protection. Mais on voit bien que voilà, c'est des politiques finalement qui n'ont pas forcément été assez bien pensée ensemble, construite ensemble, pour à la fois se nourrir sans détruire, pour continuer à prélever et puis en même temps protéger.
L'enjeu est donc à la fois de limiter la pêche, mais aussi de trouver des modes de pêche moins impactants, des navires plus sélectifs et moins carbonés.
Catherine Pétillon, merci. On réécoute votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho. Et tous les sujets liés à ce sommet des océans sont regroupés sur notre page France, une terre de mer. On passe à l'actualité économique. En bref, la taxe Zucman, dont on parlait hier dans le décryptage éco, n'est pas passée au Sénat. Elle a été rejetée par 188 voix contre 129. Poussée par la gauche et des économistes reconnus, cet impôt planché sur le patrimoine des ultra-riches bute toujours sur l'opposition de la droite, d'une partie du centre et du gouvernement qui dit craindre l'exil fiscal des 1800 ménages visés par la taxe et un signal négatif adressé aux grandes entreprises. La marque Jennifer, reprise partiellement par le groupe Beaumanoir qui prévoit de sauver plus d'un tiers des 1000 emplois menacés. L'enseigne de textile à bas coût qui cible les jeunes filles aura survécu à des licenciements, un redressement judiciaire, un changement de nom et enfin une liquidation. Beaumanoir est un groupe breton qui regroupe Carole, Bonobo ou Cache Cache. Il a repris également des groupes comme La Halle ou la marque Quicksilver. Célio reprendra une partie des effectifs également. Pour cette reprise, le consortium Beaumanoir-Célio a mis plus de 2 millions d'euros sur la table. Enfin, les cours du pétrole étaient en pleine envolée cette nuit après l'annonce par Israël de ces frappes préventives contre l'Iran. Plus 10% pour le cours du brut à la bourse de Tokyo et avant l'ouverture des bourses européennes. Ces frappes israéliennes font redouter en effet de fortes perturbations sur les approvisionnements de pétrole. L'Iran figure parmi les 10 plus grands producteurs au monde. La tension est revenue alors qu'un accord sur le nucléaire iranien avec les États-Unis se fait de moins en moins probable. Et puis pour le marché pétrolier, le cauchemar serait une fermeture du détroit d'Ormuz dans le golfe d'Oman qui pourrait affecter jusqu'à 20% des flux pétroliers mondiaux.
Dans le prochain journal, autrement dit le journal de 8h, de quoi va-t-on parler alors ?
Un retour évidemment sur ces frappes israéliennes qui ont touché l'Iran cette nuit, visant des sites nucléaires et faisant plusieurs morts. Une escalade de la violence désapprouvée par toute la communauté internationale. L'Iran promet de riposter. Nous serons également à Ballymena, cette ville d'Irlande du Nord où la communauté des immigrés d'Europe de l'Est est victime de violences racistes depuis plusieurs jours. Puis nous irons à Nice à quelques heures de la fin du sommet des Nations Unies sur les océans.
Merci beaucoup, Anne-Laure Chouin. On file immédiatement à l'étranger.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Avec l'information de la nuit que l'on retrouve, Israël a mené des frappes contre l'Iran et ses sites nucléaires notamment.
Des attaques sans précédent, titre le journal israélien Haaretz, qui suit les événements en direct sur son site depuis cette nuit, tout comme Iran International, la BBC, le New York Times, le Washington Post, la Frankfurter Allgemeine Zeitung ou encore El País. C'est dire si la situation est grave, si nous sommes à un tournant de la guerre au Proche-Orient. Des sites nucléaires iraniens, des usines de missiles balistiques ont été visées donc par Israël lors de centaines de frappes en plusieurs vagues qui ont également tué des commandants militaires iraniens, indique l'IRNA, l'agence de presse d'État à Téhéran. Et c'est tout un symbole. Le centre de commandement des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime, part en fumée, montre Iran International. Deux dirigeants de ce corps militaire d'élite ont été tués dans les frappes de cette nuit, ainsi que quatre scientifiques spécialistes du nucléaire, selon un bilan fourni par les médias iraniens qui parlent de martyrs. Et l'IRNA, l'agence d'État, elle dénonce les blessures sur 50 civils, dont des femmes et des enfants qui ont été hospitalisés. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, promet à Israël un sort amer et douloureux, rapporte l'agence officielle IRNA, ainsi que Iran International. Mais pour le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il était grand temps d'agir, car l'Iran a produit, selon lui, suffisamment d'uranium enrichi pour 9 bombes atomiques, rapporte la chaîne télévisée i24 News, qui parle également de risque de nouvelle Shoah nucléaire. Et ce n'est pas anodin si Benjamin Netanyahou s'est exprimé en hébreu et en anglais cette nuit, comme le montre le quotidien Haaretz, pour expliquer à son pays et au monde entier qu'il s'agit en fait de frappes préventives et que cette opération, baptisée Rising Lion, le lion qui se dresse, se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour éliminer la menace existentielle qui pèse sur Israël. L'armée a eu raison de frapper, estime de son côté le Jerusalem Post, car les alliés de l'Iran sont affaiblis dans la région. Et puis aussi, surtout, les négociations entre Washington et Téhéran sur le nucléaire sont au point mort, rappelle le New York Times et le Jerusalem Post. Reste à savoir quelle sera la capacité de riposte de l'Iran. Le Jerusalem Post craint le pire et le régime iranien impose pendant ce temps son récit dans le pays, note Iran International, en verrouillant les réseaux sociaux.
Et à présent, Catherine, vous nous faites entendre des témoignages de rescapés de prisons secrètes du groupe Wagner. Ça se déroule au Mali.
Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où la presse est muselée par la junte au pouvoir à Bamako, c'est en Mauritanie où sont réfugiés près de 300 000 Maliens dans le Sahara que les journalistes du collectif Forbidden Stories et, leurs partenaires ont pu recueillir ces paroles rares. Des victimes, des témoins révèlent les arrestations arbitraires et les tortures menées par les mercenaires russes du groupe Wagner avec la complicité des forces armées maliennes dans leur camp ou sur d'anciennes bases de l'ONU. Un ancien humanitaire malien, Van Green, raconte à Forbidden Stories avoir subi des simulacres de noyade, la tête plongée dans une bassine d'eau jusqu'à ne plus pouvoir respirer, avant d'être frappé à la tête, au ventre, des coups de bâton, de câbles électriques. Les mercenaires russes et l'armée malienne cherchaient à savoir à qui pouvait bien appartenir un talkie-walkie utilisé par des djihadistes. 10 mois après s'être exilé en Mauritanie, Van Green est toujours hanté, ajoute Forbidden Stories, par la musique russe qui résonnait dans le camp militaire malien de Nampala. Séquelles physiques et psychologiques dont témoigne également Nouma, un boutiquier peul brûlé au ventre et attaché dans une douche, complètement nu pendant sa détention. Quant à Ismaël, il a passé plus de 40 jours dans un conteneur sous un soleil de plomb. Ils ont brûlé les mains de certains prisonniers, d'autres sont devenus infirmes, paralysés au niveau des jambes, et ils n'avaient pas de limite. Le plus dur pour nous, c'était de creuser dans le gravier, du travail forcé, le genre de gravier, vous savez, qui est utilisé pour faire de l'asphalte, c'est ce que nous devions creuser. Si vous voulez lire l'enquête du consortium Forbidden Stories, torture et disparition forcée, plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali, je vous mets le lien dans quelques instants sur le site de France Culture, à la page de la revue de presse internationale. Et aujourd'hui, à la tête du Mali, le général Assimi Goïta vient d'obtenir de ses ministres, sans élection donc, un mandat de chef de l'État de 5 ans, renouvelable. Titre le quotidien malien L'Essor, le chef de la junte s'était pourtant engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024. Une vision osée et assumée de la transition, selon le journal malien Le Pays, qui évoque la récente dissolution des partis politiques et qui salue par ailleurs le bilan sécuritaire contre les terroristes au Mali. Mais la situation ne s'est pas améliorée, rappelle dans l'Algérie voisine du Mali le média TSA, où un spécialiste de la défense explique le contre-coup de la stratégie Wagner. Les mercenaires russes ont agi avec tellement de brutalité que la majorité des Maliens du Nord ont aujourd'hui basculé dans le camp séparatiste. Ils quittent donc le Mali sans victoire. Départ de Wagner, mais arrivée du groupe Africa Corps, une structure contrôlée par le ministère de la défense russe, qui pourrait réduire les marges de manœuvre de Bamako et accroître l'emprise de Moscou sur les affaires maliennes, estime le média guinéen Le Djeli, qui remet donc en cause la rhétorique souverainiste que l'on peut entendre à Bamako. Le Djeli déplore l'absence de véritables choix stratégiques offerts aux peuples africains. Si la seule option reste de choisir entre l'Est et l'Ouest pour désigner notre maître, écrit le média guinéen, cela en dit long sur l'impasse politique et institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, continuez à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi. Au programme demain, une activité aussi énergivore que bruyante, le minage de crypto-monnaies avec des ventilateurs qui refroidissent, Guillaume, les ordinateurs des centres de données.
Merci beaucoup pour cette revue de presse internationale, Catherine Dutu. On va rester en quelque sorte à l'étranger pour l'un des plus grands romans qui ait jamais été écrit, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. On célèbre les 100 ans de l'écriture de ce roman, puisque Mrs. Dalloway se promenait à Londres il y a très exactement 100 ans. Et on en parle dans quelques instants avec nos invités, l'écrivaine Nathalie Azoulay, qui propose une nouvelle traduction de ce roman, et l'angliciste Marc Porré. 7h43 sur France Culture.
L'histoire des sciences nous explique comment les connaissances évoluent dans le temps.
Antoine Beauchamp.
L'archéologie est une science qui s'occupe de comprendre ce que le temps qui passe fait aux sociétés humaines. À la croisée de ces chemins, il y a Science Chrono. Une heure pour passer d'une époque à une autre et plonger dans les archives et les vestiges de l'humanité.
Science Chrono, chaque vendredi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre proposent « En lisant, en écrivant », un cycle de rencontres littéraires. Mardi 17 juin, 18h30, entrez dans les coulisses de la création avec Emily Boom, romancière camerounaise, reconnue pour ses récits puissants sur la mémoire, l'identité et les luttes féminines en Afrique. Une masterclass animée par Julie Gacon à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription. Plus d'infos, franceculture.fr. Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors, il y a l'actualité internationale et puis il y a l'actualité dans l'ordre de l'esprit. Qu'est-ce qui change le monde? Qu'est-ce qui a le plus changé nos esprits? Eh bien, par exemple, un roman, celui de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, publié aux éditions POL. Même si vous n'avez pas lu ce roman, surtout si vous ne l'avez pas lu, il y a des choses qui, dans ce roman, évoquent le récit, évoquent le sort des femmes, le sort des hommes, la manière dont ceux-ci peuvent écrire leur intériorité. Et ce roman, figurez-vous, s'est déroulé très exactement il y a 100 ans dans les rues de Londres, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce 13 juin de vous proposer une nouvelle lecture, une nouvelle traduction, parce que c'est à cette tâche que vous vous êtes livrée, Nathalie Azoulay. Bonjour. On vous connaît en tant que romancière, mais vous êtes aussi traductrice et donc vous proposez pour POL cette nouvelle traduction du roman de Virginia Woolf. Et à côté de vous, Marc Porré, bonjour. Vous êtes angliciste, professeur émérite à l'École normale supérieure. Marc Porré, peut-être tout d'abord présenter qui était Virginia Woolf.
Bien, Virginia Woolf était une écrivaine moderniste, installée au cœur du modernisme. D'un mot rapide, ses dates, elle naît en 1882, dans l'établissement, on va dire ça comme ça, avec un père assez prestigieux, un grand intellectuel. Elle meurt en 1941, et on peut dire d'un mot qu'elle n'a jamais cessé d'écrire. Très tôt, elle écrit un journal, dès 1905. Elle écrit pour les journaux, pour la presse. C'est une journaliste. Et puis, elle écrit de la fiction. Et puisqu'il s'agit de Mrs. Dalloway, on peut dire que son personnage a hanté Virginia Woolf depuis très longtemps. Dès 1915, en effet, le couple formé par Clarissa et Richard Dalloway apparaît dans la traversée des apparences. C'est un couple snob, un vaguement comique. Et puis, Virginia Woolf se dit que là, il y a quelque chose à creuser. Donc, elle commence ce travail de creusement avec une nouvelle en 1922 intitulée « Mrs. Dalloway dans Bond Street », où l'on va retrouver à l'entame de cette nouvelle une phrase qui va faire écho. Et la phrase, c'est « Clarissa Dalloway dit qu'elle va acheter des gants ». Et ces gants vont se transformer dans la suite du parcours dans des fleurs. Et puis, là, à nouveau, elle se dit, il faut étoffer cela. Et donc, elle songe à écrire un roman qu'elle appelle, dans un premier temps, « Hours », les heures. Les heures qui passent, les heures scandées par Big Ben, etc. Et puis, elle se dit, je vais étudier la folie et le suicide. Je dis ça rapidement et avec beaucoup de prudence parce que je ne voudrais surtout pas enfermer Virginia Woolf dans ce personnage suicidaire.
Une sorte de vision téléologique, comme si la fin de Virginia Woolf
était déjà écrite.
Tout le reste.
Oui.
Juste pour donner quelques repères, en 1925, il y a aussi le procès de Kafka, il y a La montagne magique de Thomas Mann, il y a Marcel Proust, alors c'est à titre posthume, mais voilà, c'est la suite, on publie La prisonnière, la fugitive. Peut-être pour restituer, Marc Porré, cet univers intellectuel sur la scène littéraire.
Encore une fois, c'est un milieu moderniste, c'est-à-dire expérimental s'agissant de l'écriture. Et Virginia Woolf a dû se dire quelque part, écoutez, il y a tous ces hommes, ces grands hommes, T.S. Eliot, 1922, The Wasteland. Il y aura, 1928, La Mandalay des Chatterley, D.H. Lawrence. Il y a Ezra Pound. Et donc, ce modernisme, il faut le transformer, se l'approprier en tant qu'écrivain féminin. Et donc, c'est un modernisme au féminin qu'elle va essayer d'imposer et elle y parvient avec éclat.
Nathalie Azoulay, vous avez donc proposé une nouvelle traduction de Mrs. Dalloway. S'il fallait résumer, alors de manière extrêmement factuelle pour ce roman qu'il est si peu, ce qui s'est passé ce 13 juin, eh bien, Clarissa Dalloway est sortie acheter des fleurs pour une réception qu'elle donnait chez elle le soir et elle déambule dans les rues de Londres avec ses pensées, le souvenir d'un ancien amour et à cette voix intérieure se mêlent d'autres consciences. Par exemple, celle de Septimus Warren Smith, qui est un ancien soldat traumatisé par la guerre. Quelques mots sur ce roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, Nathalie Azoulay, un roman déconcertant de prime abord.
Mais d'abord, je voudrais ajouter que en 1922, Joyce a écrit, a fait paraître Ulysse, et en fait, Ulysse, c'est la journée d'un homme dans Dublin. Donc 24 heures de la vie d'un homme dans Dublin, qui a donné d'ailleurs le Bloomsday, qu'on célèbre le 16 juin. Et c'est un roman qui a beaucoup agacé Virginia Woolf. Et en fait, quand elle écrit Mrs. Dalloway, elle répond en fait à ce roman en proposant la vie d'une femme dans Londres pendant 24 heures. Et cette vie, quelle est-elle? En fait, Clarissa est une grande bourgeoise mariée à un membre du Parlement. Elle ne travaille pas, elle reçoit, et en effet, ce jour-là, elle a décidé de donner une soirée parce que la guerre a eu lieu, parce que des morts ont eu lieu, parce que l'insularité de l'Angleterre a été touchée, et parce qu'elle-même a été frappée par la grippe espagnole. Donc c'est une femme qui renaît à la vie à ce moment-là, et qui décide de donner une soirée pour contrer toute cette vague de morts qu'a été la période de la guerre, et qui décide d'aller acheter les fleurs elle-même. En fait, cet incipit, ce début du roman qui est très célèbre, qui est presque aussi célèbre que « Longtemps, je me suis couchée de bonheur », nous dit à la fois la banalité de cette journée, puisque c'est juste une femme qui va aller acheter des fleurs, mais en fait, c'est une journée différente, parce que normalement, ce n'est pas elle qui va acheter les fleurs, c'est ses domestiques.
Ça s'est passé un 13 juin, et je vous propose d'entendre justement les premières lignes de Mrs. Dalloway, c'est lu par Delphine Cognard et c'est votre traduction, Nathalie Azoulay.
Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même. Car Lucy avait déjà bien assez à faire, les portes devaient être sorties de leur gond, les garçons de Ruppelmeyer seraient là d'une minute à l'autre. Et puis quelle matinée, s'est dit Clarissa Dalloway, juste ce qu'il faut de fraîcheur à des enfants sur une plage. Sauter dans la joie, dans le jour. Lui venait chaque fois cette même sensation quand elle entendait les gonds légèrement grincer, et justement, elle les entendait. Quand elle poussait d'un coup les portes-fenêtres à Broughton et plongeait dans le grand air. Cette fraîcheur, ce calme, plus étal encore que maintenant. L'air du petit matin. Une vague qui claque. Un baiser qui claque, vif, net, mais aussi, pour la fille de 18 ans qu'elle était alors, solennelle. Car là, debout, devant la fenêtre ouverte, elle le devinait, une chose terrible allait survenir. Elle regardait les fleurs, les arbres avec leurs serpents de brume, et les corneilles qui montaient, qui piquaient. Elle regardait là, debout, quand Peter Walsh avait dit « On rêvasse au milieu des légumes ?»
Nathalie Azoulay, les premières lignes donc de ce roman Mrs. Dalloway.
En fait, elles annoncent beaucoup de choses, ces premières lignes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une journée banale, mais en fait, exceptionnelle. On est en train de mettre la maison dessus-dessous avec ces portes qu'on retire de leur gonds. Ça, c'est très important, parce qu'en plus, ce roman, il y a plein de références. Et ça, c'est une référence à Hamlet, qui a fait un sort très, très lourd et très,
très durable à cette histoire de gond, même si le mot anglais chez Woolf n'est pas le même que chez Shakespeare. Et donc, il y a cette désarticulation qui s'annonce, désarticulation de l'emploi du temps, mais aussi de la temporalité, puisqu'on voit tout de suite qu'elle va retourner dans son enfance et dans sa jeunesse, et que sans arrêt, ça va communiquer entre aujourd'hui et hier.
Alors, je disais, Marc Porré, livre essentiel, livre révolutionnaire, en quoi est-il révolutionnaire ?
Et il est révolutionnaire au sens, on va dire, presque cubiste du terme. Il est difficile de situer Woolf, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'elle est résolument post-impressionniste, mais au minimum, mais elle est sûrement cubiste dans la façon dont elle étage les perspectives, dont elle fait bouger, changer, évoluer les différentes façons de voir et de penser. C'est une penseuse, vraiment. C'est une romancière, bien évidemment, mais c'est aussi une penseuse de la perspective et de la manière dont on agence les points de vue sur le monde. Et ces points de vue sont aussi des points de voix. C'est-à-dire que, un peu plus loin dans la page que l'on vient de lire, remonte à la surface, à la manière de bulles de souvenirs, remontent à la surface les petites phrases de Peter Walsh, qui a été son ancien amant. Et le roman, c'est ça. C'est des bribes, c'est des fragments de voix, de pensées. C'est une dérive. Cette première page, c'est le début d'une dérive, pas situationniste, mais d'une dérive à travers la ville.
Et aujourd'hui, Nathalie Azoulay, Virginia Woolf est devenue une écrivaine qui est très emblématique de l'écriture des femmes, de l'écriture féministe. Et vous qui avez également écrit, vous n'êtes pas seulement traductrice, vous êtes écrivaine. On vous doit quelques romans qui sont d'ailleurs eux aussi des romans où l'on voit certains thèmes que Virginia Woolf traite, comme par exemple les amours complexes, les souvenirs, la vie d'une femme et la manière dont celle-ci peut se remémorer son passé. Qu'est-ce que justement Virginia Woolf symbolise aujourd'hui comme écrivaine féministe ?
Bah, en fait, Virginia Woolf est devenue une forme d'icône pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Comme le disait Marc Porré, elle a été la moderniste la plus célèbre en son temps. Quand le roman est paru, il a eu du succès, en fait. Donc, il y a eu un mouvement qui s'est fait grâce à elle. Et puis, quelques années après ce roman, elle a écrit Une chambre à soi, qui est un peu le manifeste de l'écriture féministe et qui revendique un certain nombre de conditions pour que les femmes puissent écrire. Et à partir de là, alors, sa postérité a été variable, mais il y a, depuis quelques années, un regain qu'il a place comme leader, je dirais, sur la scène de l'écriture féminine. Alors pourquoi ? Parce qu'elle aborde à la fois dans ce roman des choses très conventionnelles, qui sont la vie d'une femme qui donne une réception dans un milieu très bourgeois et très convenu, mais aussi cette liberté de penser, cette liberté d'écriture, cette liberté du récit qui fait aller vers d'autres amours que celles que les amours conjugales. Et surtout, il y a un secret sexuel dans ce livre. On y reviendra peut-être.
Et lorsque vous avez écrit, par exemple, La fille parfaite, Nathalie Azoulay, vous aussi, vous avez utilisé des techniques qui... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si elles ont été inventées par Woolf, mais en tout cas, elles ont été portées très haut, comme le flux de conscience, la subjectivité, la temporalité intérieure, parce que Woolf, c'est également la question du temps. Alors, bon, elle n'a pas été inventée par Woolf, puisque... Elle était déjà présente dans Hamlet, mais on voit qu'il y a là des thèmes qui sont des thèmes que vous avez utilisés.
Oui, c'est vrai qu'elle a mis à disposition du XXe siècle, mais elle n'est pas la seule. Mais beaucoup de femmes se sont engouffrées dans ses pas. Ce flux de conscience, cette liberté de point de vue qui glisse les uns après les autres, puisque Mrs. Dalloway, c'est le point de vue de Clarissa, mais c'est aussi le point de vue de Peter, c'est aussi le point de vue de Richard, son mari, c'est aussi le point de vue de sa fille. Enfin, il y a des tonnes de points de vue qui se succèdent et qui se relaient de manière très très fluide, finalement, puisque tout est fluide dans ce roman. Et donc, il y a cette possibilité narrative qui s'ouvre, qui, à l'époque de Mrs. Dalloway, est encore nouvelle. D'ailleurs, les traducteurs qui s'y collent ont un peu peur de le traduire comme ça. Mais aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs.
C'est, je vais le dire de manière brutale, Marc Porré, le roman, c'est l'une des manières les plus faciles, peut-être les plus adaptées, pour entrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre, pour avoir affaire à une intériorité, parce que c'est pas facile d'avoir accès à une intériorité, même parfois d'avoir accès à son intériorité.
Oui, oui, on ne sait jamais ce que vous pensez à l'intérieur de votre tête. Le roman permet de s'imaginer au moins ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. C'est la fameuse transparence intérieure. Donc le roman rend, comme une lanterne magique, rend l'intérieur des consciences. Et pour revenir d'un mot, juste d'un mot sur le féminisme de Virginia Woolf, qui est effectivement admirable, il faut quand même ajouter la violence avec laquelle elle s'en prend au patriarcat. C'est-à-dire qu'il y a chez elle quelque chose de très pointu, de très sharp, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'elle elle entend par la fluidité, et c'est le paradoxe suprême de Virginia Woolf, elle entend par la fluidité fracasser la rigidité du monde patriarcal, du monde des pères, du monde des politiques, du monde de l'établissement. Et il y a chez elle, dans ce roman peut-être un peu moins, mais dans des essais qu'elle a écrits, quelque chose d'implacable dans sa dénonciation de la rigidité masculine.
Peut-être aussi pourrait-on rapprocher Virginia Woolf et cette journée de celle d'un autre écrivain anglais, évidemment James Joyce et l'Ulysse. Dans quelle mesure on peut aussi comprendre ce roman comme une réponse à Joyce? On en parle dans une vingtaine de minutes. Marc Porré, vous êtes angliciste, professeur émérite à l'ENS, et Nathalie Azoulay, écrivaine. On vous doit donc cette nouvelle traduction de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. En attendant, il est 8h sur France Culture. Et voici le journal de Marc.